Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Pendant l'absence de Moïse qui rencontrait l'Éternel sur le mont Sinaï, les enfants d'Israël dirent à Aaron « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car pour ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il en est devenu. » Alors Aaron façonna un veau d'or pour que le peuple puisse se divertir devant son Dieu. Il n'était pas question d'organiser pour eux une fête païenne, non. Les Israélites partirent du principe qu'ils allaient célébrer une fête en l'honneur de Yahvé, l'Éternel. Aaron construisit un autel devant l'image, et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de Yahvé ». Cet événement est typique de ce que l'humanité n'a cessé de faire depuis lors. L'homme a érigé ses propres idoles et n'a jamais cessé de les appeler du nom de Dieu. Si les gens adorent Baal, celui-ci sera toujours Baal, même si on lui donne le nom Dieu. S'ils adorent Mithras, ce sera toujours Mithras, même si on lui donne le nom de Jésus-Christ ou Sauveur. L'ancien Israël donna le nom de Yahvé au veau d'or, mais ce n'était qu'un veau d'or, une idole, malgré le nom qu'on lui avait donné. La Bible démontre qu'il ne suffit pas d'adorer ce qui est appelé du nom de Dieu. Il faut regarder au-deçà et au-delà, afin de découvrir ainsi l'origine exacte et déterminer avec certitude s'il s'agit bien du Dieu vivant ou non. Voyons l'exemple que nous donne Moïse lorsqu'il se trouve devant le buisson ardent. Moïse dit « Je veux faire un détour pour considérer cette grande vision et voir pourquoi le buisson ne se consume point. » Yahvé vit qu'il se détournait pour regarder. Je poursuis maintenant cette lecture dans la version Louis II. Moïse dit à Dieu « Voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Moïse savait qu'il ne suffisait pas de dire « Dieu est son nom ». Le Dieu dont il allait devoir parler au peuple devait être défini, car les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte où Ra était appelé Dieu, Osiris était appelé Dieu, etc. Dieu est un nom qui désigne aussi des idoles nombreuses et différentes, et cette confusion persiste puisqu'on attribue encore de nos jours le nom Dieu à des idoles qui ne sont pas des dieux. Plus tard, l'Éternel Dieu se fit connaître en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » L'Éternel décrit cette manie de l'homme qui est de créer ses propres dieux. « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. » Ce que nous venons de lire ne vous rappelle-t-il pas les anciens adorateurs de statues ou d'images de l'Antiquité ? Pourtant, aujourd'hui, n'importe qui peut acheter dans des magasins spécialisés une image du Christ, une statue en plâtre, en bois ou en fonte, un crucifix ou même une simple croix. Il peut placer ses statues sur la cheminée, fixer au mur les images, les croix et les crucifix, et prétendre ensuite que ce qui a été fait selon l'imagination d'un peintre ou d'un sculpteur est tout simplement son sauveur. Mais d'où vient ce besoin de se créer un propre Dieu, de choisir telle statue du Christ plutôt qu'une autre? L'homme a l'imagination fertile. C'est exactement ce que Dieu signifie lorsqu'il dit « À qui me ferez-vous ressembler ?» L'homme adopte des coutumes religieuses dès les premières années de son existence, en observant ses parents pratiquer leur religion, leur culte. Il forme ses idées personnelles sur Dieu par les choses qui lui sont racontées et qu'il fait siennes tout naturellement. Les enfants sont naïfs. Ils sont prêts à croire à Saint-Nicolas, au Père Noël ou à Dieu. La définition du péché, du ciel, de l'enfer, du diable et même de Dieu lui-même leur est inculquée par leur entourage et leur imagination fait le reste. Ces différentes croyances sont présentées comme étant chacune la vérité, alors que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi il y a tant de dénominations et de doctrines de plus en plus éloignées de la parole de Dieu. Avec le temps, ces idées sur Dieu changeront et se modifieront peut-être. C'est un phénomène de société. Mais Dieu ne change pas. Il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'histoire a montré que les gens ont tendance à reporter sur leur Dieu leurs caractéristiques. Bien des nations ont créé leurs dieux qui ont toujours ressemblé à ceux qui les ont créés. Ces dieux aimaient et haïssaient ce que la nation aimait et haïssait. Ils se trouvaient toujours du côté des plus forts. Chaque dieu était souvent patriote et détestait les autres nations. Les Allemands n'hésitent pas à affirmer « Gott mit uns », ce qui signifie « Dieu avec nous ». La France se considère comme la fille aînée de l'Église, donc la préférée de Dieu. Comment éviter les pièges de cette tendance humaine de se créer un Dieu bien à soi? Tout simplement en remontant à la source, à la parole de Dieu, qui révèle qui est le Dieu vivant et comment il faut lui plaire. Pourquoi l'homme a-t-il tendance à imaginer Dieu selon sa propre image, ou sous les traits d'un animal, comme c'était le cas dans l'ancienne Égypte? Parce qu'il nourrit son esprit d'anciens récits inspirés par Satan et représentant les dieux comme des êtres cruels, vindicatifs, sauvages et ignorants, d'où la conclusion pour l'être humain qu'il n'existait aucun autre dieu que le sien. Mais ce fut une erreur de raisonnement. S'il avait pu regarder au-delà de ces faux dieux, il aurait découvert avec stupéfaction un Dieu créateur, fait de bonté, de simplicité et rempli de compassion pour tous. Comprenons qui est Dieu. La Bible révèle plusieurs caractéristiques de l'Éternel Dieu. Il marchait dans le jardin d'Éden. Il mangea avec Abraham. Il écrivit avec son doigt sur les tables de pierre. Il a une oreille pour entendre. Il s'exprime avec une bouche. Les Écritures abondent de références de ce genre. C'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu et non Dieu à l'image de l'homme. La destinée de l'homme qui veut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu est de naître dans la famille divine pour devenir semblable à Dieu. L'apôtre Jean confirme « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Mais des enfants engendrés n'ont encore né de nouveau. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Lorsque Dieu ou la famille divine établit son plan d'agrandissement, décidant d'y incorporer des enfants spirituels, il créa Adam et Ève avec un corps physique, ressemblant au corps spirituel des membres de cette famille. L'homme est physique, alors que Dieu est esprit. À la première résurrection, s'il persévère dans le chemin étroit, l'homme sera esprit comme Dieu l'est. L'esprit de l'homme est si limité, contrairement à l'esprit, à l'intelligence de Dieu, qu'il ne parvient pas toujours à comprendre les projets grandioses de son Créateur. L'homme se trompe grossièrement sur Dieu. Lisons ce que l'Éternel déclare. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer la plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Au Moyen Âge, les dieux servirent de prétexte pour couvrir la terre de sang. L'homme construisait des cathédrales pour son dieu, en même temps que des donjons avec salles de torture et instruments de supplice pour quiconque n'adoptait pas son dieu. Mais la Bible nous montre clairement que ce dieu-là n'était que le fruit de l'imagination de l'homme, séduit par Satan qui veut nous convaincre que Dieu est un monstre de cruauté. Le Dieu véritable est un Dieu d'amour et de paix. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dans le passé, les hommes croyaient que la terre était le centre de l'univers. Ceci a été déclaré au nom du Dieu vivant comme étant la vérité. Mais, comme beaucoup d'autres affirmations, cela ne figure pas dans les Écritures. Il y eut beaucoup de fausses idées de ce genre propagées au nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme avait inventé son Dieu, auquel il avait attribué ses propres convictions, sans oublier toutes ses erreurs en astronomie, en géographie, en philosophie, en moralité. S'il croyait en l'esclavage, alors son Dieu y croyait aussi. S'il croyait en un feu d'enfer pour y subir des tourments éternels, alors son Dieu y croyait aussi. S'il avait envie d'aller à la guerre, automatiquement, son Dieu en avait envie aussi. Tout était excuse et prétexte à l'homme pour satisfaire ses propres désirs. Les adeptes de ces dieux-là en arrivaient à aimer de moins en moins les autres. Ils devenaient intolérants, oubliant que le Dieu vivant avait affirmé « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et l'apôtre Jean ajoute « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère », ici le mot « haïsse » est traduit de « miséo », signifiant « aimer moins », c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.